Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce mercredi 3 avril, un attentat déjoué. Deux hommes voulaient prendre en otage des enfants dans une école maternelle et s'en prendre ensuite à des policiers. Ils ont été arrêtés et mis en examen à Paris. Détail à suivre. La taxe d'habitation sera supprimée en 2022, c'est confirmé. Mais d'ici là, les hauts revenus devraient être mis à contribution. Nous irons à Alger après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Les Algérois se méfient toujours d'une nouvelle ruse du clan au pouvoir. Nous serons en ligne avec l'un des opposants, Soufiane Djilali, du parti Nouvelle Génération. La grande distribution a encore fait transpirer ses fournisseurs malgré la loi alimentation. Les trois quarts des entreprises agroalimentaires se sont vues demander des baisses de tarifs. On est encore loin du compte. Un vol au Resto du Cœur de Strasbourg, des agents de la métropole tapaient dans les stocks. La météo. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Alors un bon cocktail hivernal.
Oui, c'est ça exactement. Des températures plutôt dignes d'un mois de février avec ce régime d'averse qui va concerner toutes les régions. C'est même de la pluie ou de la neige en continu sur les frontières de l'Est. De la neige qui tombera de plus en plus bas cet après-midi, des 800 ou 900 mètres en fin de journée. Ça va durer tout au long de l'après-midi et de la nuit prochaine. Ailleurs, donc, des averses, parfois entrecoupées quand même de belles éclaircies. Sous ces averses, on aura de la grêle, parfois de la pluie, de fortes rafales de vent quand ça sera orageux. Et ça concernera toutes les régions, y compris le sud. Les températures en chute libre, 7 à 9 degrés seulement dans la moitié nord cet après-midi, jusqu'à 11 degrés dans le sud-ouest. Il n'y a que près de la Méditerranée qu'on atteindra encore parfois les 15 degrés.
La question du jour sur RTL.fr. Faut-il interrompre les rencontres sportives en cas d'insulte homophobe? Vous dites oui à 68%, 26% de non. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle. Effectivement, vous pourrez réagir sur ce sujet comme sur d'autres sujets. Julia, victime d'une agression transphobe, les mentalités ont-elles du mal à évoluer? Autre sujet, nous attendons vos appels après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Vous nous écoutez peut-être en Algérie. Vous êtes algérien, d'origine algérienne, et vous habitez en France, venez témoigner. Enfin, nous pourrons réagir sur le football avec Rennes qui est en finale de Coupe de France. Est-ce que Rennes va enfin gagner une finale de Coupe? A tout à l'heure.
A tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Et pour commencer donc ce projet d'attentat déjoué, deux hommes voulaient s'en prendre à des enfants dans une école maternelle et à des policiers. Ils ont été arrêtés et mis en examen à Paris. Étaient-ils sur le point de passer à l'acte, Thomas Proutot?
Alors pas de façon imminente, hein, selon une source au sein du contre-terrorisme, mais il s'agit bien d'un projet concret caractérisé. Un des hommes âgés de 20 ans a reconnu en garde à vue qu'il voulait s'en prendre à une école, à des enfants donc, et aux forces de l'ordre. Selon BFM TV, il comptait faire une prise d'otage et affronter les policiers armes à la main. Il a également fait référence à Mohamed Merah, son mentor. S'il a été arrêté dans la nuit du 25 mars dernier à son domicile en Seine-et-Marne, c'est parce qu'il aurait commencé à rechercher des armes. Mais il a été repéré par la DGSI, le service de lutte antiterroriste. Il était d'ailleurs connu de ce service, fiché S. L'autre homme mis en examen serait un complice, un ami impliqué peut-être dans la fourniture d'armes, lui aussi âgé de 20 ans, lui aussi fiché S. Mais attention, prudence, on nous précise que le principal homme mis en examen était connu pour des problèmes psy. L'enquête donc se poursuit afin de déterminer l'intention terroriste réelle de ces deux hommes.
Merci Thomas Proutot pour ce décryptage. Un élève en a frappé un autre à coups de marteau en pleine classe dans un lycée d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. L'adolescent de 16 ans se disait harcelé. Il avait été victime de happy slapping et la vidéo avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Il est revenu en classe et semble-t-il, il s'est vengé. La taxe d'habitation aura disparu d'ici 2022. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. C'est confirmé par le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Le grand débat accouchera-t-il, lui, de baisse d'impôts? Bruno Le Maire, dans Les Échos, promet un geste pour les classes moyennes. L'entrée dans l'impôt sur le revenu est brutale, dit-il, et peut décourager les Français à reprendre un travail. Et dans ce cas, Éric Vanier, ce sont les hauts revenus qui vont compenser, notamment via les niches fiscales.
Oui, c'est l'une des pistes privilégiées par le gouvernement, trouver un milliard en rabotant les niches fiscales. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, d'abord parce que la somme est conséquente. Un milliard, c'est un coût de rabot de 12% sur les avantages accordés aux contribuables. Ça ne passera pas inaperçu, même pour des ménages aisés. Deuxièmement, Ces niches sont déjà plafonnées, limitées à 18 000 ou 10 000 euros par foyer fiscal selon les cas. Les marges de manœuvre sont donc étroites. Enfin et surtout, la plupart de ces dérogations fiscales ont une raison d'être et c'est souvent délicat d'y toucher. Le meilleur exemple, c'est celle qui coûte le plus cher à l'État, les crédits d'impôt liés aux emplois à domicile. Eh bien, Bercy a déjà exclu de raboter le dispositif au nom de la lutte contre le chômage et le travail au noir. Idem s'agissant d'une autre grosse niche, les réductions d'impôts au titre des dons faits aux associations. On voit mal le gouvernement réduire cette aide indirecte aux œuvres caritatives, à commencer par les Restos du Cœur. Il faudra donc que le gouvernement fasse preuve d'imagination et de prudence pour dénicher ce milliard dans la déclaration de revenus des Français.
Pour Emmanuel Macron, c'est l'avant-dernière étape de son tour de France du grand débat. Il rencontre en ce moment des maires à Saint-Brieuc en Bretagne. Il sera demain en Corse et les nationalistes boycottent la rencontre. Mais finalement lui tendent la main. Il l'invite à venir échanger dans leur hémicycle à l'Assemblée de Corse avec des élus. La consultation sur les retraites va-t-elle tourner court ? Après le cafouillage de ces derniers jours sur l'âge de départ à la retraite, Jean-Paul Delevoye, qui mène la concertation, menace de démissionner, c'est ce que révèle le Canard enchaîné. Force ouvrière lui emboîte le pas. Même du côté de la majorité, ça gronde depuis plusieurs jours. Le chef de file des députés de La République En Marche tente de mettre tout le monde sur le même pas, Vincent Deroux.
Oui, car la colère a gagné une grande partie du groupe majoritaire. L'ambiance était, selon plusieurs députés à qui j'ai pu parler, franchement pourrie ces derniers jours. La plupart des parlementaires voient dans ce sujet des retraites une véritable bombe politique, bien sûr, d'autant que ça chauffe pour eux en circonscription. Et avec les petites phrases ici et là des ministres, ils ne savent plus vraiment quoi répondre. Donc hier, en réunion de groupe, Gilles Legendre a demandé aux députés les plus remontés de se calmer, d'attendre la venue du Premier ministre mardi prochain pour avoir une discussion constructive. Didier Paris, député de Côte d'Or, La République En Marche, calme le jeu. Il affiche un soutien total au monsieur retraite, Jean-Paul Delevoye.
La problématique de l'âge de la retraite n'est pas posée. Elle n'était pas dans la feuille de route donnée à Jean-Paul Delevoye. Revenons aux éléments de base de la réforme envisagée.
Ce que vous attendez donc, c'est une clarification du Premier ministre Édouard Philippe mardi prochain.
Clarifier, vous avez raison. Je considère que c'est encore une fois un sujet trop sérieux pour qu'on puisse le traiter par des petites phrases. Il y a évidemment des prises de position politiques de ci, de là. Revenons à la feuille de route.
Même position dans l'entourage d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin sont accusés de bordéliser le débat. Il faut suivre Jean-Paul Delevoye, s'agace un très proche du président. Matignon et Bercy n'ont pas à s'en mêler. Tant que le président n'a pas tranché sur ce sujet, ministres et députés sont priés de ne plus mettre sur la table leur position personnelle.
Voilà, ça c'est fait. Vincent Derosier, dans un instant, part en Algérie après l'ère Bouteflika.
RTL Midi,
avec Christelle Rebière.
C'est la fin d'un règne, mais est-ce vraiment une page d'histoire qui se tourne ? Après 6 semaines de contestation, la rue a obtenu le départ du président Bouteflika en Algérie. Le président est apparu en gandoura à la télévision pour une séquence où il remet sa démission sans un mot. Le Conseil constitutionnel va donc prendre la main. Il a 90 jours pour organiser une nouvelle élection présidentielle. Morad Djabari, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Alger. Et même si un millier d'Algérois ont manifesté leur joie hier soir, beaucoup, beaucoup restent méfiants.
À l'ombre de la grande poste sur les terrasses de café, l'espoir transpire sur les visages des Algériens. D'après Kamal, le meilleur est à venir.
On attend depuis 20 ans, maintenant l'espoir est là. Vous avez vu cette irruption soudaine que personne n'attendait ? Et dans quelles conditions ça s'est fait ? Dans le calme, avec sagesse, maturité d'une jeunesse merveilleuse. C'est une deuxième révolution pour moi.
Bientôt, Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, va prendre sa place au sommet de l'État pour 3 mois. Les affaires courantes seront gérées par le gouvernement, remaniées dimanche, et gérées par Nourdine Bedoui, deux figures et deux proches du système. Nabil leur demande de partir avec Bouteflika.
Tout le peuple attend le changement. On veut plus de système corrompu, on veut plus de gens sales et tout. On veut le changement, la liberté.
D'après Yanis, il faut être vigilant et la transition démocratique en Algérie va prendre du temps.
Il y a une certaine forme d'impatience, mais actuellement le mouvement est en train de s'organiser pour essayer de faire en sorte qu'il puisse présenter une alternative au système qui existe actuellement et dont il ne veut plus.
Cette démission de Bouteflika est une première victoire, mais les Algériens n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin.
Reportage de l'envoyé spécial d'RTL à Alger, Morad Djabari. Et nous sommes en ligne avec Soufiane Djilali, président du parti Nouvelle Génération. Bonjour.
Oui, bonjour.
La démission d'Abdelaziz Bouteflika n'est qu'une première victoire pour vous. La contestation doit continuer ?
Absolument. Le départ de M. Bouteflika a été attendu, il était pratiquement acté depuis quelques jours. Maintenant, il devient une réalité. Cependant, ce n'est pas encore la fin du système. Les Algériens, en sortant le 22 février en masse, avaient réclamé non seulement le départ de M. Bouteflika, mais de tout le système qu'il a engendré lui-même. Or, l'application de l'article 102 tel que insiste le commandement militaire, ce n'est qu'un subterfuge pour maintenir en place le système. Et donc, voilà la prochaine bataille.
Et en 90 jours, on ne peut pas obtenir la fin du système. 90 jours d'ici aux prochaines élections.
Non, il est évident que l'application de l'article 102 signifie le maintien en l'état de toutes les structures, le maintien du gouvernement sans aucun changement possible, le maintien également de la loi électorale et de tout le système. En plus, en 3 mois, il est impossible que des figures nouvelles émergent, puissent proposer des projets de société, un programme. Donc tout cela n'est qu'un subterfuge pour que dans la précipitation, on revienne exactement au point de départ, ce que les Algériens refusent, bien entendu.
Mais les alternatives, elles existent? Il y a des gens comme vous qui sont prêts à se porter candidat?
Il n'y a pas de doute que des alternatives existent, simplement elles ne sont peut-être pas tout à fait visibles pour le moment, et pour cause, le régime a pendant de trop longues années imposé une chape de plomb, il a contrôlé toute la communication officielle, il a empêché l'expression plurielle de la société, mais tout cela bouillonne à l'intérieur de la société, et il est évident que nous avons besoin d'un minimum de 6 mois, tout d'abord pour remettre en cause tout un arsenal juridique qui ligotait l'expression, puis aller vers des élections en toute transparence et avec toutes les garanties nécessaires.
Quel rôle vous comptez jouer, vous, dans les semaines, dans les mois à venir? Vous dites 6 mois. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement?
Pendant ces 6 mois, il faut que d'abord les Algériens continuent à être mobilisés, parce que, en fin de compte, c'est la rue qui a imposé ces concessions essentielles, et il ne faut pas lever le pied jusqu'à l'obtention complète d'un nouveau système qui sera mis en place. Ensuite, il faut que les partis politiques participent directement à l'animation de la vie publique, à proposer des débats, à expliquer la démarche et surtout à attirer l'attention sur les manœuvres qui risqueraient de nous ramener vers juste un renouvellement du pouvoir et du régime.
Et laisser le même clan au pouvoir. Merci beaucoup, Soufiane Djilali, d'avoir été l'invité.
Merci d'RTL à
Midi.
Vous.
Merci beaucoup. Vous appelez les Algériens à ne pas relâcher la pression. Merci. Le sultanat Brunei est un pays juste et heureux. C'est par cette phrase assez surréaliste que le sultan a répondu aux critiques venues du monde entier, de la France, des associations humanitaires, de l'acteur Georges Clooney. Il vient d'instaurer ce matin la peine de mort par lapidation pour punir l'homosexualité et l'adultère. C'est le premier pays d'Asie du Sud-Est qui va appliquer la charia la plus stricte, comme le fait l'Arabie Saoudite, Pierre-Julien.
Oui, indépendant depuis 1984, c'était un protectorat britannique. Brunei se situe sur la côte nord-ouest de l'île de Bornéo, que se partagent la Malaisie et l'Indonésie. Au début du XXe siècle, on y a découvert d'immenses réserves de pétrole. L'or noir va faire la richesse des compagnies occidentales, et aujourd'hui encore, celle de son sultan, le redouté Hassan al-Bolkiah, qui depuis plus de 50 ans tient le pays d'une main de fer. C'est une monarchie absolue, islamique de droit divin. La population, 450 000 habitants, est composée à près de 70% de musulmans qui ont l'obligation d'aller à la prière collective du vendredi. L'alcool y est bien sûr interdit. Bouddhistes, chrétiens, animistes répondent quant à eux en principe d'une loi civile différente. Si la peine de mort a été suspendue en 1957, le sultan, grand amateur de voitures de luxe et de palaces, il détient à Paris le Meurice et le Plaza Athénée, a décidé en 2003 d'appliquer progressivement la charia dans sa lecture stricte. Depuis aujourd'hui, vous l'avez dit, l'adultère est donc puni de lapidation, comme les rapports sexuels entre hommes, l'homosexualité féminine pouvant entraîner une condamnation à 10 ans de prison. Un voleur aura une main ou un pied coupé. Gage pour ceux qui en doutaient, notamment dans son pays, que le sultan respecte l'islam le plus intransigeant.
Pierre-Julien. Une pause et dans un instant, un vol au Resto du Cœur.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Les Restos du Cœur volés. On vous a raconté 50 fois cette histoire, mais ce qui s'est passé à Strasbourg est assez différent, car les voleurs présumés sont des agents de la métropole de Strasbourg qui assuraient le transport de la marchandise. Ils se sont servis dans leur camion, Yannick Collin.
Oui, ces agents municipaux étaient chargés de transporter les marchandises entre l'entrepôt principal des Restos du Cœur et les 10 centres de distribution répartis dans la ville. Et selon les premiers éléments de l'enquête, ces agents avaient pris pour habitude de se servir, pour leur usage personnel, de ce qu'ils trouvaient dans la camionnette. Daniel Beltier, président des Restos du Cœur du Bas-Rhin.
Ça a pu être des paquets de couches pour bébés, ça a pu être des parkas, des sacs de couchage qui sont destinés aux gens en grande précarité, aux gens de la rue. Voilà, c'est ce genre de produits qui étaient constatés plus fréquemment que d'autres comme étant manquants lors de l'arrivée.
Les Restos du Cœur n'avaient pas déposé plainte. Ils pensaient même que c'était des erreurs de leur part, des bénévoles qui se trompaient sur les quantités envoyées. C'est finalement une dénonciation interne au sein de l'Eurométropole qui a permis de mettre au jour cette pratique navrante. 6 agents ont reconnu les faits. De quoi désabuser Daniel Beltier.
C'est tout à fait choquant. C'est des marchandises qu'on achète pour donner aux personnes accueillies. Je veux pas jeter la pierre à quiconque, je veux pas accabler. C'est très dommage, je dirais, c'est désespérant si on peut dire, mais bon, le mot est un peu fort, mais c'est, voilà, je considère que c'est regrettable.
Les Restos du Cœur qui sont en train de lister tous les produits qui ont pu disparaître ces derniers mois pour découvrir l'ampleur du préjudice.
Les fournisseurs sont-ils enfin rémunérés au juste prix par la grande distribution ? Souvenez-vous, c'était l'objectif majeur de la loi alimentation votée à la fin de l'année dernière. Les petits producteurs allaient enfin s'en sortir et les négociations allaient être un peu moins rudes. Or, les trois quarts des entreprises agroalimentaires se sont vus demander des baisses de tarifs. C'est ce qu'affirme ce matin l'Association nationale de l'industrie alimentaire, l'ANIA. Son président Richard Girardeau est avec nous. Bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs.
Ça veut dire, monsieur Girardeau, que la loi alimentation est un fiasco ?
Ah non, absolument pas. Absolument pas. On est en année 1. C'est une année. On sait que nous avons un CDD de 2 ans. C'est ce que nous a dit le gouvernement et les autorités. On est en année 1 et des progrès ont été faits, mais le résultat chiffré est négatif puisqu'on finit avec une déflation de 0,5%.
On rappelle que l'idée, c'est de mieux rémunérer les producteurs. Alors comment on en est arrivé là ? Vous avez l'air de nous dire que finalement, ces négociations, elles ont été aussi rudes que d'habitude.
Elles ont été quasiment aussi rudes que d'habitude, même si sur la forme, il y a eu des efforts de fait, même sur certains secteurs d'activité, il y a eu des efforts de fait, mais globalement, fait est de constater que non, on finit encore dans des situations difficiles pour nos entreprises, oui, c'est clair.
Donc sur quels produits, dans quel secteur il y a eu des efforts ? Vous pouvez nous donner des exemples concrets ?
Oh, il y a eu, oui, bien sûr, il y a eu deux efforts particulièrement, c'était le lait, l'industrie du lait globalement. Il y a eu des efforts, c'est loin d'être parfait, en particulier sur les marques distributeurs, mais il y a eu des efforts de fait. La pomme de terre, conséquence de la canicule en 2018, oui, il y a eu des efforts dans certains secteurs. À l'inverse, les céréales, tout ce qui déclinait de la matière première céréale et la viande, non, là, on est loin du compte. Loin du compte par rapport aux besoins des entreprises, encore une fois.
Mmh. Restez avec nous, Richard Girardeau. Je me tourne vers Jacques Serret, notre spécialiste de l'alimentation et de la grande distribution sur RTL. Bonjour Jacques.
Bonjour Christelle.
C'est pas tout à fait le tableau que dresse la ministre en charge de ce dossier, ni la direction générale de la concurrence quand même.
Oui, c'est un peu une guerre des chiffres, car ce n'est pas du tout ce que dit aussi la grande distribution. À l'inverse, la FCD, la Fédération du Commerce et de la Distribution, fait valoir que cette loi alimentation a fait augmenter les prix en rayon de certains produits agricoles. Une hausse de 6,3% en moyenne sur les produits grandes marques comme le pot de Nutella ou encore des yaourts Danone, rapporte ce lobby des grandes surfaces. La DGCCRF, le gendarme du commerce, défend également la loi alimentation en expliquant que le climat des négociations commerciales a été, je cite, « moins tendu ». C'est le cas sur certains produits, sur certains volumes comme le lait, nuance de son côté la patronne de la FNSEA, Christiane Lambert, mais pas sur tous. Bref, c'est un peu la cacophonie 2 mois après la mise en œuvre de la loi alimentation. Le principal syndicat agricole appelle aujourd'hui la DGCCRF à davantage de contrôle.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Richard Girardeau ? On a l'impression que c'est un peu parole contre parole. Chacun veut y voir ce qui l'intéresse, au fond.
Vous confirmez que le climat a changé ? Oui, je vous confirme que le climat a changé, en particulier avec certaines centrales, mais fait est de constater que le chiffre de déflation continue et que c'est effectivement le chiffre de 6,3%,
de la hausse du prix en rayon.
la hausse du prix en rayon, je le conteste totalement, puisque le panier moyen, les gens n'achètent pas que des produits qui augmentent non pas de 6 mais de 4%. Il y a simplement 100 références de produits de grandes marques qui ont augmenté de 4%. Le global a augmenté de 0,5%, c'est-à-dire 1,20€ par caddie, de 200€ par mois et par foyer.
Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume ?
D'abord, je rends hommage à son action. Je rends hommage aux actions de Madame Pannier-Runacher, non pas par complaisance, c'est parce qu'il y a eu des vrais efforts de fait, qu'il y a eu des vraies règles du jeu, que pour l'instant, elles sont contournées par certains, et pas tous, pour être clair. Certains clients ont complètement adhéré à la philosophie et au plan d'action de la loi Egalim. Simplement, bon, ce que je peux demander à Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est de soutenir la démarche de contrôle avec Madame Pannier-Runacher et des sanctions dans les cas où il y a une vraie volonté de contourner la loi. C'est tout.
Donc
de nous mettre encore autour de la table pour réussir l'année 2. La confiance, la bonne foi doit s'installer entre les différents partenaires.
Et
sortir des chiffres me paraît un peu aberrant.
Donc vous nous dites peut mieux faire. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Richard Girardot. Football, le parcours de Lyon s'est donc arrêté hier soir en demi-finale de la Coupe de France, battu par Rennes 3-2. Les Bretons affronteront le vainqueur du match de ce soir, PSG Nantes. Et il restera l'image d'une humiliation publique, celle de l'entraîneur Bruno Genesio par le président du club Jean-Michel Aulas. Ça ressemblait à un licenciement en direct, mais Willy Maisonnas, son badge ne sera désactivé qu'à la fin de la saison.
Ah oui, scène assez lunaire où pendant plus de 11 minutes, le seul Jean-Michel Aulas a occupé l'espace. Visage crispé, phrases alambiquées, clairement embarrassé. L'élimination face à Rennes vient de fracasser son plan communication. Au lieu d'annoncer une reconduction de contrat de Bruno Genesio, il révèle un deal qui fragilise son coach comme jamais.
Si nous allions en finale de la Coupe de France et si nous étions sur le podium, il y aurait une prolongation à laquelle j'aspirais. Les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait, donc on va rester en l'état.
À court terme donc, avec Bruno Genesio, pas loin de l'humiliation, du chaos, même s'il refuse pour l'instant de jeter l'éponge.
Je vais tout donner pour laisser le club dans l'état que je l'ai trouvé, à savoir qualifié en Champions League.
Cette formule,
laisser le club.
Vous l'avez entendu, à un moment hier soir, on a même eu l'impression que Jean-Michel Aulas lui ouvrait la porte à la question Genesio. Pourrait-il encore être sauvé par un podium en mai prochain ?
Il pourrait, le cas échéant, mais il peut aussi s'en aller et ne pas répondre aux propositions qu'on pourrait lui faire.
Lyon, et ce n'est jamais l'idéal au foot, va clairement finir la saison avec une grosse épine dans le pied.
Willy Maisonnas, l'Arc de Triomphe sera emballé par l'artiste Christo en 2020. 25 000 mètres carrés de tissu recyclable de couleur argent bleuté, 7 000 mètres de cordes rouges seront utilisés en guise de paquet cadeau. Christo avait déjà emballé le Pont Neuf en 1985 et on verra si ça suscite autant de débats qu'à l'époque. Je ne sais pas si vous en souvenez, Pascal Praud.
Je m'en souviens très bien, le Pont Neuf, effectivement, je me souviens, c'était il y a quelques années. Jean-Michel Aulas, c'est un grand président.
Oui.
Ce qu'il a fait à Lyon est tout à fait exceptionnel et c'est sans doute le plus grand président d'un club de football dans l'histoire du foot français.
Mm-hmm.
Bon, simplement ce qu'il a fait hier soir, c'est pas bien. On n'humilie pas son principal collaborateur comme ça, publiquement. Et Bruno Genesio n'a rien dit. Il aurait pu se lever, mais c'est toujours délicat, forcément, parce qu'il y a des intérêts financiers. On comprend Bruno Genesio. Moi, je suis toujours étonné quand Jean-Michel Aulas fait ce genre de choses, parce que c'est quelque chose qui restera de lui et je ne trouve pas que ça le serve. Alors vous pourrez réagir là-dessus, aussi sur la belle victoire de Rennes, peut-être Rennes-Nantes en finale de Coupe de France. Nantes gagne ce soir contre le Paris Saint-Germain. Autre question du jour, faut-il arrêter les rencontres sportives en cas d'insultes homophobes? Et vous disiez oui à 68% et non à 28%. Autre question encore, nous attendons vos appels si vous êtes algérien, si vous êtes d'origine algérienne, après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Et puis quel est votre budget automobile, Christelle? Vous avez une voiture?
J'ai une voiture, mais je préfère pas faire le calcul.
Bah oui, bah vous êtes comme tout le monde. Combien vous coûte votre véhicule chaque
cher.
Mois, chaque année? Finalement, on devrait peut-être tous prendre une trottinette, comme disait.
Une trottinette électrique.
Bah oui, bah j'ai écouté Cyprien Sinis ce matin à 6h40. On va tous terminer en patinette.
C'est ça la modernité. Donc, Louis Baudin, si j'ai bien compris, on sort en trottinette, mais couvert.
Mais couvert, oui. Cet après-midi, c'est vrai que par intermittence, on va prendre de bonnes averses. Hein, je les vois se multiplier, même si encore une petite accalmie relative en ce moment entre le Val-de-Loire et l'Île-de-France. Viendra également le tour sur ces régions de prendre ces averses, parfois accompagnées d'orages, de grêles, de pluies. Alors, sur les régions de l'Est, ça sera sous forme de neige sur tous les reliefs dès 700-800 mètres. Hein. Cette limite plus neige va baisser tout au long de l'après-midi. Le sud sera également concerné. Beaucoup d'averses en ce moment entre l'Aquitaine et la Méditerranée. Donc ça va durer avec parfois de fortes rafales de vent. Les températures 7 à 10 degrés seulement dans la moitié nord, de jusqu'à 11 degrés aller peut-être dans le sud-ouest. Mais sous un orage, on peut rapidement, pendant quelques minutes, perdre 3-4 degrés. Et puis quand même 14 à 18 degrés près de la Méditerranée.
Bon, c'est poussif côté température. Ouais. Ce sera pareil demain ?
Ça sera pareil demain, avec la même fraîcheur, avec la même instabilité. Alors, au milieu de ces averses, de ces passages nuageux, de cette grêle, de cette neige en montagne qui va tomber encore en abondance dès 600 mètres cette fois-ci, voire 500 mètres demain tout au long de la journée, il y aura quand même quelques éclaircies un petit peu plus belles dans la partie centrale. J'y vais prudemment avec l'instabilité. Il faut vraiment rester modeste. Peut-être un peu plus d'éclaircies entre l'Île-de-France, la région Midi-Pyrénées et surtout près de la Méditerranée avec le retour du Mistral et de la Tramontane.
Merci Louis. Dans un instant, le rappel des titres avec Alexandre de Saint-Aignan. Il est 13h.
Le tout info des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous, Alexandre de Saint-Aignan, bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Emmanuel Macron refuse l'invitation des nationalistes corses à la veille de la venue du chef de l'État sur l'île de Beauté pour clore le grand débat national. Les dirigeants nationalistes qui voulaient d'abord boycotter la venue du chef de l'État ont invité ce matin le président à s'exprimer chez eux devant l'Assemblée de Corse. Le chef de l'État donc refuse cette invitation. Il passe la journée actuellement en Bretagne. Il rencontre actuellement 600 élus locaux à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Un attentat déjoué à Paris. Deux hommes ont été mis en examen. Ils menaçaient de s'en prendre à une école maternelle ou à un policier. Les deux hommes sont fichés S, selon nos informations. L'un d'entre eux a évoqué Mohamed Merah, considérant l'auteur des tueries de Toulouse et de Montauban en 2012 comme son mentor. Faire le plein, passer chez le garagiste, payer l'assurance, le péage, le stationnement. Les conducteurs n'ont pas fini de passer à la caisse. Selon une étude de l'Automobile Club, avoir une voiture a coûté encore plus cher en 2018, et notamment à cause de la hausse des prix du carburant, le président de l'Automobile Club, Didier Bolecker.
Aujourd'hui, quand on vous vend un litre de super, il supporte une taxation de 167%, plus de 8 fois la TVA sur les produits normaux, alors que c'est un produit de première nécessité. Sur le diesel, c'est pratiquement pareil, c'est 144% de taxes. Alors je crois que l'expression « délire fiscal » n'est absolument pas usurpée. Je vous rappelle que 70% des déplacements des Français se font en voiture et que cette part ne diminue pas au fil des ans au profit des transports collectifs. Alors il y a bien une signification à ça. Les Français ne s'amusent pas à rouler en voiture pour embêter les écologistes ou le gouvernement ou de boycotter les transports en commun. C'est parce que la voiture leur rend des services et qu'elle est indispensable à leur mobilité.
Didier Bolecker avec Christophe Bourou pour RTL. Et notez que, contrairement aux idées reçues, le tarif des péages a moins augmenté que l'inflation l'an dernier. Vous connaissez le principe de l'arroseur arrosé. Le gouvernement vient de lancer une campagne sur les réseaux sociaux pour appeler à voter aux prochaines élections européennes. Une campagne qui se retrouve bloquée par Twitter, le réseau social, évoque le risque d'enfreindre la nouvelle loi contre les fake news. On marche sur la tête, le nouveau secrétaire d'État au numérique, Cédric O.
Étendre la règle en disant une campagne qui appelle à voter, je l'interdis, c'est juste inacceptable. J'ai eu le directeur de Twitter France hier. Je verrai les dirigeants européens de Twitter demain puisqu'ils sont à Paris. Il ne s'agit pas de savoir si je les engueule ou pas. Ce n'est pas qu'une question juridique, c'est juste une question démocratique. Et donc, je vais leur dire, ce n'est pas acceptable. Je pense qu'on peut espérer qu'ils apportent quelques modifications à leur position. Le but, ce n'est pas de dire Twitter, c'est mal. Le but, c'est qu'on puisse avoir un débat démocratique qui soit juste normal. Et si on veut appeler au vote, ça n'a rien à voir avec une position politique.
Cédric O avec Christophe Ponzio pour RTL. La bourse sur RTL à 13h03, c'est avec Rémi Le Bailly d'Investir les Échos. Bonjour Rémi.
Bonjour Alexandre.
Le CAC 40 est au plus haut de l'année.
Oui, l'indice a touché alors en début de séance à 5473 points, son plus haut niveau depuis le 4 octobre même. Et il a certes un petit peu cédé de terrain depuis puisqu'il s'établit maintenant à 5454 points. Mais il est en progression tout de même, en belle progression de 0,59%. Et depuis le début de l'année, le gain dépasse les 15%. Alors c'est la perspective aujourd'hui d'un accord commercial proche entre les États-Unis et la Chine qui fait monter le marché. Liu He, le vice-premier ministre chinois, arrive aujourd'hui à Washington. Washington. Et Larry Kudlow, le conseiller économique à la Maison Blanche, a indiqué qu'il s'attendait à de réelles avancées dans les discussions. Le Financial Times, de son côté, signale que les deux pays auraient résolu la plupart des points de divergence. Et du côté du Brexit, il y a là aussi des signaux positifs avec la rencontre prévue cet après-midi entre Theresa May et le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, qui pourrait peut-être déboucher sur un éventuel soft Brexit. Parmi les valeurs, eh bien, c'est assez logiquement les titres cycliques, donc sensibles à la conjoncture et au commerce international, qui profitent particulièrement de ces informations. Ainsi, ST Microelectronics gagne 6%, ArcelorMittal 4,4%, Saint-Gobain 3,1%, et l'automobile est également bien orienté à l'image de Valeo, en progrès de 2,7%.
Merci Rémi Le Bailly. Voilà la bourse en pleine forme et il n'y a pas que le CAC 40. Pascal Praud, lui aussi, il est dans une forme olympique. Il arrive dans un instant. Passez-lui un coup de fil, c'est simple comme le 3210.
Vous écoutez RTL.